France Inter.
We are not a fast fashion company. We are a fashion on demand. The difference is fast fashion companies mass produce the products they want you to wear. That we, on the other hand, right. micro produce the styles you want us to manufacture.
Nous ne sommes pas une entreprise de fast fashion, mais de mode à la demande. Il y a celles qui produisent en masse ce qu'elles veulent que vous portiez. Nous, on micro-produit les looks que vous voulez nous voir fabriquer. C'était le 23 janvier dernier sur CNBC, les mots de Donald Tang, le président du groupe Shein. Donald Tang qui a bien mérité son week-end après une semaine plutôt compliquée. Lundi, l'Union européenne a menacé son entreprise d'amende pour information trompeuse. Mardi, la Haute Autorité de la Vie Publique a annoncé avoir été saisie sur les activités de lobbying de la plateforme chinoise. Mercredi, nouvel épisode. Des sénateurs se sont étonnés auprès de France Inter d'avoir reçu un rapport soi-disant indépendant pointant le risque de déclencher un mouvement proche de celui des Gilets jaunes si la proposition de loi contre l'ultra fast fashion était adoptée. Ils ont trouvé la ficelle un peu grosse. Et oui, c'est après-demain, ce lundi, que le texte arrive donc en séance à la Chambre haute. Depuis la Californie où il vit, le patron de Chine suivra-t-il les débats sur Public Sénat ? C'est bien possible, à moins qu'il juge que le match est déjà plié. Hier, on apprenait que le gouvernement a décidé par voie d'amendement de supprimer le montant des pénalités financières. Les associations s'inquiètent, pas d'angoisse à avoir, balaye Bercy, où l'on se dit ultra mobilisé sur l'ultra fast fashion, c'est en dehors de la loi que sera décidé le fameux montant du malus appliqué à chaque vêtement, dit l'exécutif qui promet de la sévérité. Alors, fébrilité ou tranquillité retrouvée pour Donald Tang, les lobbyistes de Chine, eux, ont visiblement gagné une prolongation de leur mission.
On n'arrête pas l'écho. Claire Chaudière sur France Inter.
Bienvenue dans votre Mag Echo sur France Inter. Chaque début de week-end, on plonge dans les coulisses de l'économie autour d'un café ou pas. On est ensemble jusqu'à 10h. Ils et elles ont préparé cette émission. L'incontournable Valentin Pérez, Mathias Volant et Céline Hila à la réalisation. José Fascal, notre chasseur de son. Au mixage, Anne-Laure Cochet. Et à la technique ce matin, c'est Guillaume Roux qui vous accompagne. L'invité de ce samedi 31 mai, c'est Patrice Vergritte, le président de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. À l'heure où le gouvernement démarre l'ascension de son Himalaya des choix budgétaires, quel avenir ? Quel financement pour le renouveau des villes populaires, pour ces grands projets urbains qui ont changé le visage de quartiers entiers ? Un comité interministériel se tiendra à Montpellier la semaine prochaine. On parlera aussi d'ArcelorMittal. Cette nuit, Donald Trump a annoncé une nouvelle surtaxe sur l'acier malgré ses revers judiciaires. Interview vers 9h40. Juste avant cela, nous parlerons d'accès au logement social. Le cap des 3 millions de demandeurs est sur le point d'être franchi. Situation extrêmement tendue, vous entendrez le reportage d'Anaël Verzo. On fera aussi bien sûr notre petit tour en librairie. Bonjour Christian Chavagneux.
Bonjour Claire, bonjour à toutes et à tous.
L'écho à la page, comme chaque dernier samedi du mois. Trois conseils de livres éco à ne pas rater. Qu'est-ce que vous nous avez dégoté ce matin ?
Alors, un livre électrique, puisqu'on va parler de nucléaire, et puis bon, c'est le week-end, on va faire un petit tour chez Decat, et puis un petit voyage, vous verrez, de l'autre côté de l'océan.
Très bien, on se retrouve juste avant 10h. Mais d'abord, dans l'actualité cette semaine, il a beaucoup été question de simplification et de marche arrière sur un certain nombre de nouvelles normes environnementales. Pour en parler et en débattre, bien sûr, avec nous dans ce studio, Leïla Abboud du Financial Times. Hello Leïla.
Bonjour.
Et la directrice de recherche au CNRS, Anne-Laure Delatte. Hello alors.
Bonjour Claire.
Alors on va rembobiner le film de cette série de rétropédalage ces derniers jours, rétropédalage qu'on constate à l'échelle nationale mais aussi à l'échelle européenne. Et c'est ce dont nous allons discuter. Grand élan simplificateur pour les entreprises et le monde agricole, ou plutôt grande renonciation écologique. C'est notre débat du jour.
Le temps du débat n'a pas eu lieu. La proposition de loi Duplon, qui réautorise des pesticides interdits et assouplit les règles en matière d'élevage intensif ou d'utilisation de l'eau, a été rejetée par ses partisans hier à l'Assemblée.
C'est donc la version d'origine adoptée par le Sénat qui va maintenant partir en commission mixte paritaire.
Cette motion de rejet, c'était une volonté de la FNSEA.
Hervé Lapy, secrétaire général de la FNSEA.
On l'a poussé et on l'a obtenu. Et d'opposer toujours agriculture et environnement, ça n'a pas de sens. Notre objectif, c'est l'harmonisation des règles en Europe. On ne demande pas le grand soir, mais par contre, on veut produire au même niveau que nos collègues européens.
Pour nous, c'est une loi rétrograde. Ça va toujours dans le sens d'un modèle agro-industriel.
Fanny Métra, porte-parole de la Confédération Paysanne.
80% de la population française ne veut pas de pesticides. On se bat, nous, pour essayer de protéger une agriculture qui rémunère ses paysans et ses paysannes, mais sans flinguer la planète, sans flinguer la santé et des paysans et des paysannes et de la population.
ZFE, les députés ont voté hier soir la suppression des zones à faible émission, là où les véhicules les plus polluants ne peuvent pas rouler.
Nous avons des reculs majeurs qui sont en train d'être faits par le gouvernement et ses soutiens sur les questions écologiques.
Léa Ballage, El Mariki, députée, les écologistes.
La question des ZFE, la question de la protection de l'environnement, le projet de la simplification qui est en cours également. Nous avons un backlash écologique au détriment de l'intérêt général.
Teresa Ribera, vice-présidente de la Commission européenne, commissaire à la concurrence.
Nous pouvons réaffirmer notre engagement à maintenir le cap sur les objectifs climatiques que nous avons adoptés il n'y a pas si longtemps, conformément à l'accord de Paris et à la science.
On avait ce paquet législatif, le pacte vert, etc. Et ce discours que l'Union européenne allait être pionnière en termes de développement durable.
Laura Vérec, chargée de recherche sur le commerce, Centre national de coopération au développement, 11 11 11.
Pour les entreprises aussi, certaines d'entre elles ne veulent pas changer la loi puisqu'elles mettent du temps à l'appliquer. Aussi, on sent Trump qui veut cette simplification, cette déréglementation et l'Union européenne qui suit un peu comme une girouette alors qu'on avait réussi à obtenir des avancées.
On se bat et on s'est battu précisément pour réduire ce nombre de normes aujourd'hui qui entravent une partie très importante de l'activité industrielle européenne.
Thierry Breton, ancien commissaire européen.
À la base, il y avait sans doute une idée qui n'était peut-être pas une idée saugrenue de préserver par exemple l'environnement, de préserver la qualité au travail. Mais il y en a trop, donc il faut maintenant évidemment simplifier au maximum.
Alors, on entend que ça part un peu dans tous les sens. Hein. Si on se résume, on a depuis le début de l'année à la fois un énorme processus dit de simplification au niveau européen, parallèlement à des lois de simplification également en France. Le bon ordre, c'est moins de bureaucratie, plus de compétitivité. Leïla Abboud, vous nous faites la photo générale.
Oui, c'est bien ça. On voit une inflexion claire dans la politique européenne. Il y a eu 4 paquets de simplification. Si je résume, ça a été très bien dit pendant le reportage, c'est moins d'obligations, moins de paperasse, surtout pour les entreprises les plus petites. L'idée derrière tout ça, c'est de relancer l'investissement et la croissance qui sont en berne en Europe et aussi de répondre aux inquiétudes des entreprises sur la compétitivité. Les plus visibles ont effectivement été pour diluer le pacte vert européen adopté en 2019 qui visait de faire la lutte contre le changement climatique une priorité structurante de l'Europe. Mais pas que, il y a plein d'autres choses dans ces mesures, notamment vraiment pour alléger la charge sur les petites et moyennes entreprises. Ils ont même changé la définition de ce qui compte comme petites et moyennes entreprises pour élever les seuils, ce qui quand même exempte beaucoup de gens de toutes ces règles. Mais avant de critiquer Bruxelles pour ce soi-disant reculade, je pense qu'on va débattre si c'est une reculade ou quelque chose d'intelligent, il faut se rappeler que la Commission fait tout ça car les États membres l'exigent, ils ne font pas ça tout seuls. Les gouvernements partout en Europe s'inquiètent pour les raisons économiques et aussi politiques. Il y a quand même la montée du vote populiste et de l'extrême droite partout en Europe. Ils ont aussi peur qu'il y ait des manifestations et que les citoyens commencent à se braquer contre tout ça. Pour certaines, c'est une vraie volte-face, il ne faut pas oublier que même la semaine dernière, Emmanuel Macron a demandé l'abrogation pure et simple d'une mesure que la France elle-même a poussée il y a quelques années. C'est de l'ironie tout ça. Il s'agit des règles qui exigent un devoir de vigilance sur les entreprises. Et ça, c'est une phrase un peu compliquée pour dire que les entreprises doivent tracer et documenter leur chaîne de valeur. Ça veut dire identifier leurs fournisseurs et même les fournisseurs des fournisseurs pour assurer que tout ce beau monde est en règle d'un point de vue éthique et environnemental. Bon, certains dans tout ça vont voir des reculades de tous à mauvais oeil. Moi, je dirais que c'est plutôt du pragmatisme qui est du bon sens maintenant dans un monde économique, y compris avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Moi, simplement, je dirais juste enfin.
Enfin, vous parliez du devoir de vigilance, hein, ça fait partie des textes là qui cristallisent énormément le débat. C'est le fait que les multinationales sont un peu responsables finalement de l'ensemble des actions, y compris de leurs sous-traitants et des sous-traitants de leurs sous-traitants. Ce qui se passe, c'est effectivement qu'il y a eu un report du calendrier de la mise en place de cette loi. Et donc là, on a, vous le disiez, Macron et Merz,
son homologue
allemand, qui demandent carrément la suppression. Ça suscite quand même de grosses inquiétudes. Anne-Laure Delatte.
Oui, alors d'abord, effectivement, ça suscite des inquiétudes chez les ONG qui ont déposé plainte auprès de la médiatrice de la Commission européenne sur deux raisons. La première, c'est qu'ils jugent qu'il n'y a pas, d'étude d'impact. Et la deuxième raison, c'est que la délibération, la consultation a été déséquilibrée. Premièrement, il n'y a pas vraiment d'étude d'impact, enfin, même il n'y en a pas du tout, c'est-à-dire que normalement, maintenant, quand on met en place une loi ou quand on l'a défait par ce paquet qui s'appelle l'omnibus, c'est un terme européen qui dit que vous mettez plein d'amendements pour modifier des lois qui ont été adoptées et qui commencent à être mises en place. Eh bien, en fait, normalement, quand vous faites ça, vous faites des études d'impact pour regarder qu'est-ce que ça va avoir comme effet. Et là, il n'y en a pas eu. Donc, comme on touche à l'environnement, évidemment, les ONG pro-transition sont vent debout. Et la deuxième, c'est que les consultations qui ont eu lieu juste avant que ça soit, enfin, juste après février, pardon, quand cette loi omnibus a été présentée par la Commission européenne, les consultations. En fait, il y avait beaucoup d'entreprises du secteur fossile, beaucoup de banques, beaucoup d'entreprises de secteurs qui n'ont pas intérêt à ces réglementations. Et il y avait quelques ONG, mais il y a même une députée du Parlement européen qui a dit « Je ne suis pas sûre qu'on ait invité assez d'entreprises fossiles, il n'y en avait que quatre. »
Il faut vraiment juste... Quand vous êtes sur le terrain et vous parlez aux chefs d'entreprise... Mais c'est pas que ça, les méchants dans les industries polluantes qui étaient contre. Ils sont quasiment tous contre, même s'ils ne le disent pas en public. Et les plus grands groupes, par exemple, juste une anecdote, il y a un groupe industriel en France avec lequel j'ai parlé, ils ont déjà commencé à mettre tout ça en place pour... C'était des expérimentations depuis 2 ans. Il dit qu'il y a 1700 environ métriques dans ce texte et les entreprises doivent choisir lesquelles appliquent à eux. Eux, ils ont choisi 800. Ça rajoute 200 pages au rapport annuel. C'est pas un truc...
Ça, c'est les informations que les entreprises doivent déclarer et sur leur impact.
Ils ont même découvert que dans certains pays, c'était impossible de tracer la chaîne de valeur aussi bas. C'est juste impossible. Bon, ça, c'est l'Europe qui essaye d'exporter ses valeurs. Je dirais pas que les valeurs sont mauvaises. Après, il y a un contact avec le réel qui... Il n'y a pas besoin d'une étude d'impact. Il faut juste parler aux entreprises et on voit bien que ça rajoute des coûts et dans certains cas, c'est juste impraticable.
Ouais, alors, en fait, il faut quand même se souvenir pourquoi on a mis en place ça. Notamment, justement, quand vous dites, Leïla, qu'on essaye de tracer tout le long de la chaîne d'approvisionnement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression que ça va casser la compétitivité des entreprises européennes, mais au contraire, l'idée, c'est de se dire, de toute façon, franchement, nous, on ne va pas changer nos réglementations, dans le sens où on ne va pas faire travailler des enfants, on ne va pas se mettre à polluer nos rivières, et donc, il faut que toutes les entreprises qui opèrent sur le territoire européen soient soumis aux mêmes réglementations que nous.
Mais c'est pas uniquement en Europe, hein. C'est exporté à tout le monde.
Bien sûr, c'est même extraterritorial. Non, voilà, et c'est pour ça que, ouais, bien sûr, mais c'est pour ça que Trump déteste ce principe-là, puisqu'on impose aux entreprises étrangères d'opérer en Europe, d'opérer avec les mêmes contraintes que nous. Mais encore une fois, nous, on ne va pas faire travailler des enfants, donc on ne va pas pouvoir vendre moins cher parce qu'on opère avec des règles moins contraignantes contraignantes que ce qu'on voudrait.
Mais quand une entreprise est soumise à cette obligation dans un pays en Afrique, c'est pas sur le même pied de compétitivité, dans le petit cadre de l'Europe, c'est le cas. Après, je pense qu'il y a juste mis à part le devoir de vigilance, je pense qu'il y a quand même de la marge en Europe pour couper la réglementation ou le poids sur l'économie. Le fameux rapport de Mario Draghi, qui analysait la compétitivité en Europe, a trouvé qu'il y avait 7 fois plus d'actes législatifs en Europe qu'aux États-Unis entre 2019 et 2024. Il y a de la marge.
C'est-à-dire que ça, c'est l'enfer bureaucratique que dénoncent les entreprises. Vous dites, Leïla, que c'est une réalité.
On a besoin de 7 fois plus.
Moi, je vais juste vous donner un exemple qui m'a frappée, parce que j'ai parlé avec justement des gens qui étaient en train de mettre en place ça et qui sont obligés de, si vous voulez, des cabinets d'audit qui étaient en train d'aider des entreprises à le mettre en place et qui sont en train de reculer.
Cette fameuse processus de déclaration de plus d'informations sur l'impact environnemental des entreprises.
Exactement. En fait, l'idée, c'est pas d'interdire, c'est de rendre visible. C'est de savoir comment est-ce que ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on achète, et fabriqué. Si c'est fait par des entreprises qui polluent, si c'est fait par des entreprises qui respectent le droit du travail ou pas. Et en fait, regardez, prenez l'exemple de Perrier. Si Perrier avait identifié les risques avant, s'ils avaient déclaré le fait que... s'ils avaient fait toutes ces déclarations qu'on leur demande aujourd'hui, c'est une gestion du risque, c'est vraiment un instrument de gestion de risque, dans le sens où on aurait identifié bien avant la bombe à retardement qui leur est tombée dessus la semaine dernière, ou disons il y a 4 ans, en réalité. Qu'est-ce qui s'est passé avec Perrier? En fait, la seule source dont, à partir de laquelle ils vendent leur eau, a été contaminée par des pesticides. Ça, c'est des choses qu'on aurait pu identifier, en fait, si on avait eu ces réglementations avant. L'idée, c'est qu'on ne vit pas dans un monde où tout va bien. En fait, il va y avoir de plus en plus de risques et de plus en plus d'accidents climatiques, environnementaux. Et donc, l'idée, c'est d'aider les entreprises à identifier ces risques-là pour éviter que dans 10 ans...
Justement, est-ce que ces entreprises sont tous d'accord avec cet omnibus européen, etc. Est-ce que toutes les entreprises vont dans le même sens?
Beaucoup d'entre elles. Après, il y a une liste de quelques-uns, notamment dans l'industrie des biens de consommation, qui ont été très loin en amont, juste avant, d'une manière volontaire, dans la traçabilité, pas tellement des chaînes de valeur, mais sur la décarbonation. Enfin, moi, je dirais, continuez, les gars. S'ils veulent continuer, personne ne les interdit de continuer. Ils ont toujours mis en avant que c'était aussi pour leurs employés, qu'ils y croient vraiment dans ces causes-là, et les clients. Rien ne les empêche d'y aller.
Mais si, justement, ne détricotez pas.
Je vais juste changer le focus un tout petit peu. On oublie les consommateurs et les vrais gens dans tout ça. Les sondages montrent qu'une grande majorité d'eux, 80% des Européens, sont pour des mesures pour lutter contre le changement climatique. Après, il y a aussi une autre choc de réalité, c'est qu'après, quand ça commence à toucher leur vraie vie, il faut rénover votre appartement avant cette date, il faut changer votre voiture avant cette date. Là, il y a un contact avec le réel qui ne plaît pas à tout le monde.
C'est-à-dire que ce n'est pas encore acceptable, accepté par les citoyens.
Quand on regarde, par exemple, les ventes des voitures électriques, ça coûte trop cher. Les gens ne les achètent pas. Alors, du coup, ils ne veulent pas jeter leur vieux diesel.
Mais là, vous avez raison. C'est-à-dire que ce qui est compliqué, effectivement, c'est que dès que ça touche au portefeuille, on est myope. En fait, on oublie complètement le problème que dans 20 ans, en fait, nos enfants vont souffrir de nos actions d'aujourd'hui. Et c'est là qu'on a besoin, à mon avis, d'une action publique. Et c'est complètement justifié théoriquement. C'est-à-dire que les gens sont myopes et l'État, il est censé... Pour les retraites, par exemple, c'est exactement comme ça que ça se passe. Vous n'avez pas du tout envie de cotiser pour vos retraites, sauf que vous savez que... Sauf que l'État sait que si vous ne cotisez pas, vous allez vous retrouver avec des gens au chômage, etc. Et là, c'est la même chose. L'idée, c'est de dire aux consommateurs... Ok, tu veux pas le prendre en charge, et on va le faire pour toi.
Et ce sera le mot de la fin.
Il paye, tout le monde paye.
Merci Anne-Laure Delatte, on les mettra pas d'accord. Anne-Laure Delatte et Leïla Aboud, elles ont fait le débat éco de ce samedi 31 mai.
Real decreto ley para la ampliación de derechos de industrialización.
Unemployment and lower job creation.
Et voici l'économie comme elle tourne ailleurs sur la planète, alors que la charge de la dette publique fait encore couler chaque semaine beaucoup d'encre chez nous, avec ce matin d'ailleurs probablement ce ouf de soulagement pour le gouvernement. L'agence de notation S&P ne dégrade pas la France. Direction l'Argentine de Javier Milei qui cherche justement à refinancer sa dette sur les marchés financiers. Écoutez.
El Ministerio de Economía licitó un bono en pesos para inversores extranjeros en busca de 1 000 millones de dólares para engrosar las reservas.
Le ministère de l'économie, nous dit cette journaliste argentine, a émis des obligations en pesos auprès des investisseurs étrangers à la recherche de 1 000 millions, autrement dit 1 milliard de dollars pour renflouer les caisses. Bonjour Alice Dubernet, correspondante de France Inter à Buenos Aires.
Bonjour Claire, bonjour à tous.
Opération réussie, selon le gouvernement argentin, qui salue une excellente nouvelle et l'appétit des investisseurs.
Oui, alors en Argentine, on voit des mesures économiques à peu près tous les jours. Effectivement, le gouvernement s'est réjoui d'avoir obtenu 1 milliard de dollars de la part d'investisseurs internationaux. Ça s'ajoute au prêt du FMI de 20 milliards qui leur avait été accordé en avril dernier. Et tout cet argent, évidemment, il creuse la dette, mais il est absolument essentiel parce que le pays a besoin de dollars pour réguler sa monnaie et son inflation. Dans la même dynamique, le gouvernement de Javier Milei a annoncé la semaine dernière vouloir faciliter le retour d'argent dans les banques. Ici, la valeur de la monnaie, elle oscille tellement que la quasi-totalité des Argentins change ses pesos en dollars, puis ils les gardent, comme on dit, sous le matelas. Avec cette mesure bancaire, le gouvernement, il espère que les Argentins déplacent progressivement leurs économies pour les réintégrer dans une économie formelle. Après, reste à voir si le pays pourra rembourser tous ses prêts. Pour le moment, il produit et exporte presque uniquement des produits agricoles. Et en interne, les prix et le taux de pauvreté explosent. Donc évidemment, le pouvoir d'achat est en berne.
Et au niveau de la population, comment évolue, Alice, le taux de popularité de Javier Milei? Il reste le même?
Oui, en fait, la société, elle est divisée, avec d'un côté les personnes qui pensent qu'il faut encore attendre pour le juger, se serrer la ceinture encore un peu plus, mais de l'autre, il y a ceux qui tombent dans la pauvreté maintenant et qui n'ont pas le temps d'attendre les jours meilleurs. Le tout, évidemment, s'inscrit dans un contexte social explosif. Le dernier scandale en date cette semaine, c'est que l'exécutif a ajouté plusieurs domaines d'activité, comme le transport maritime ou la télécommunication, dans la liste des activités essentielles. Et ça limite grandement la possibilité de faire grève dans ces secteurs. Pour la CGT, c'est une atteinte claire au droit de grève, car il n'y a eu aucune consultation préalable à ce sujet.
Alice Dubernet avec nous de Buenos Aires. Neuf heures trente-cinq sur France Inter. Dans quelques petites minutes, Patrice Vergriet, président de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. On s'intéressera ensemble à la manière dont la situation évolue ou pas dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Après deux grands plans de renouvellement du bâti et des espaces, que reste-t-il à faire? Mais avant cela, dans le reportage, on pose, ou plutôt on repose hein, cette question. Comment relancer la construction et surtout les attributions de logements sociaux? Le grand écart continue de s'accroître entre l'offre disponible et la demande de logement social en France. 2,8 millions de ménages, c'est en augmentation chaque année. Il faut dire que le parc privé est souvent inaccessible et qu'on ne produit pas assez d'habitats à loyer modéré. 65% des personnes qui demandent un logement social travaillent, comme Jamila, qu'a rencontré notre reporter Anaëlle Verzo. Elle vient d'en obtenir un dans le 20e à Paris, mais ça a été très long.
Bonjour, je m'appelle Jamila, j'ai deux enfants.
Et est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez réussi à trouver un logement social?
Ça a été l'enfer en fait, ça a été l'enfer. J'étais tout le temps sur ce site du 1% patronal Action Logement. J'ai fait des demandes, à chaque fois il y avait au minimum 300 candidats sur un logement, à chaque fois.
Donc finalement, après combien de temps vous avez pu obtenir un logement social? Combien de temps après cette demande?
2 ans. Mais de mon côté, j'ai envoyé peut-être 700, 800 lettres manuscrites, écrites, recommandées, préfecture, tous les maires d'arrondissement. C'était tous les jours, non-stop.
Vous ne pouvez pas acheter?
Non, je ne peux pas acheter, je n'ai pas d'apport et j'ai tenté hein, quand j'étais en grande difficulté. Et je suis allée toquer aux agences immobilières. C'est comment? Vous avez 60 ans? Vous êtes en CDI? Ah ok, vous êtes assistante sociale? Ok, très bien. Ah, vous avez des enfants? Ok, encore chez vous? Très bien, ok. Et vous avez des garants? Ben non, ben c'est mort, c'est pas possible. Et quand on m'a fait la proposition, le logement qu'on m'a attribué, sincèrement, c'était pas terrible. C'est un logement social dans une grande tour, une cité, l'ascenseur est en panne une fois sur deux, je suis au 6e étage, j'ai une vue sur la cité d'en face qui est pratiquement, quoi, j'ai l'impression que les gens sont chez moi.
Ça fait combien de mètres carrés pour quel prix?
Donc 50 mètres carrés, sachant que je suis avec ma fille donc, qui est encore étudiante et qui vit avec moi. Et donc il y a une chambre, un salon et une salle de bain, une petite cuisine. Ma fille donc dort dans, je lui ai donné la chambre et moi je dors dans le salon. Et le prix donc c'est 700 euros par mois. Voilà.
En 2023, 836 000 franciliens avaient fait une demande de logement social. C'est deux fois plus qu'en 2010. Il n'y a pas qu'en Île-de-France où les demandes de logement social explosent. Toutes les villes, surtout les grandes métropoles, sont confrontées à la même pénurie. Mais voilà maintenant à Nancy. J'ai rendez-vous au Centre communal d'action sociale, le CCAS. C'est ici qu'on traite les dossiers les plus délicats, qui n'ont pas encore abouti.
C'est bien le CCAS ?
Je vais aller chercher une chaise.
C'est gentil, merci. Comment vous, votre prénom, c'est comment ?
Nicole.
Alors là, vous sortez un gros dossier. Vous avez un paquet là de courriers. Courrier du 7 mai 2024. Madame, monsieur, je me permets de vous écrire afin de solliciter un logement social.
C'est ça, oui,
actuellement
oui.
Logé à titre provisoire chez un ami suite à la disparition soudaine d'un proche. Cette situation me place dans une position très précaire et m'oblige dans la précipitation à trouver un logement adéquat.
Elle vit près de Brabois pour des raisons de santé, je crois. Et on lui avait conseillé de tout de même de prendre rendez-vous au CCAS de Vendeuve, puisque c'était plus proche, c'était un T2, en sachant qu'à cette époque-là, on n'avait aucune proposition de T2 sur le secteur. Oui, parce que la crise du logement est telle en ce moment que les petites typologies T1 et T2, on a énormément mal à en avoir. Ouais. De même pour les grandes typologies, c'est-à-dire T5, sur Nancy, c'est aussi un problème à trouver un grand logement.
Est-ce que c'est une recherche ?
Vous voyez, par exemple, les chiffres 2024, où il y avait 740 personnes accueillies, renseignées, orientées pour l'année. 80 relogements effectifs en logement social, 2368 appels téléphoniques, donc vous voyez que c'est conséquent, 90 dossiers en attente et 15 dossiers classés sans suite. Donc il y a une charge très lourde de travail et nous ne sommes que deux.
Une dizaine de minutes de marche.
Oui, Clara, je viens juste d'arriver là, je suis sur la petite place où il y a la fontaine.
Me voici maintenant devant le siège de la métropole du Grand Nancy. J'ai rendez-vous avec Mathieu Klein, président de la métropole. Il est aussi le maire socialiste de Nancy.
La crise du logement social entraîne des files d'attente qui se sont allongées. 1,7 demandeurs par logement social en 2019, 4 demandeurs par logement social en 2025. Nous voyons le nombre de personnes en situation d'accéder à un logement social parce qu'ils ont le niveau de revenu requis augmenter et dans le même temps le nombre de logements reculer. Donc cette réalité-là est une réalité très difficile à gérer à l'échelle de nos territoires parce que c'est nous, notamment les maires, qui sont souvent en première ligne hein, de ces habitants qui écrivent, qui viennent voir, qui téléphonent par tous les moyens pour nous dire « Monsieur le maire, j'ai besoin d'un logement et nous devons trouver des solutions ». Ce qui nous a engagés par exemple à voter un plan d'urgence pour favoriser donc à peu près 1 million d'euros mis à disposition des bailleurs pour accélérer la reprise de la mise en service, alors soit de la construction, soit de la transformation de logements existants, ce qui fait qu'en 2024, on est passé à 203 et on va passer d'ici la fin de l'année à 222 nouveaux logements par an sur un objectif de 300 par an que nous atteindrons, je pense, en 2026.
À Nancy, mardi, c'était aussi la première édition de la Journée du logement social. Ça se passe juste en face de la gare, au congrès Prouvé. Dans l'amphithéâtre de ce grand bâtiment gris, il y a des bailleurs sociaux, des maires, le directeur des prêts de la Banque des Territoires ou encore des entrepreneurs qui se sont rassemblés pour une série de conférences. L'événement est organisé par l'Union sociale pour l'habitat qui représente le secteur des HLM. Emmanuel Cosse est sa présidente.
Les acteurs du logement social investissent beaucoup plus dans l'économie en chiffres. On est à plus de 17 milliards d'investissements pour l'année 2024, donc construction neuve et réhabilitation. Mais pourtant, on produit moins. Premièrement, parce qu'en fait, les opérations sont beaucoup plus chères. Aujourd'hui, un logement en moyenne social à construire, il est autour de 170 000 euros. Il y a 20 ans, il était autour de 70 000 euros. Donc, c'est une augmentation considérable. Deuxièmement, depuis 2022, on a une crise de la construction globale de logements qui est folle. La production de logements dans sa globalité a extrêmement chuté. Hein, on est à plus de 50% par rapport aux meilleures années de 2017-2018. Techniquement, c'est impossible d'augmenter la construction de 50% en 3-4 ans. On ne sait pas faire ça. Après, moi j'aimerais, hein, j'aimerais évidemment qu'on soit capable de le faire. J'aimerais que l'État nous pousse à le faire. Et donc qu'on puisse, par exemple, je rêve, avoir des mobilisations, des plans de mobilisation générale sur la production de logements sociaux. Et on est plutôt face à un État qui, quand même, depuis 2017, a plutôt pour aider qu'on dépense trop d'argent pour le logement et que finalement, c'est le marché qui va réguler tout ça. Aujourd'hui, le marché, il fait juste qu'accélérer des phénomènes de ségrégation d'un côté et de prédation du parc de longue durée pour du parc touristique. Si le modèle de société, c'est de se dire qu'on fait des logements pour loger des touristes, mais qu'on n'est pas capable de loger celles et ceux qui vont nourrir ces touristes et qui vont laver et faire le ménage chez eux, derrière cette crise, il y a aussi la question de c'est quoi la société dans laquelle on vit et qu'on offre aux habitants et à celles et ceux qui font tourner le pays.
Comment désengorger le parc et donc faire diminuer les demandes ? Des pistes existent. Pierre Madec est économiste à l'OFCE. Il suggère, par exemple, de dissocier le foncier et le bâti, c'est-à-dire de vendre séparément le terrain et le logement en lui-même.
Il n'y a pas de solution magique pour répondre à ça. En plus, c'est des sujets compliqués. Le logement s'inscrit sur un temps relativement long. Enfin, à mon avis, actionner les deux leviers, c'est-à-dire le levier de la production neuve. Il faut reproduire massivement du logement abordable. Alors, certains jouent sur les mots en disant que c'est pas forcément du logement social qu'il faudrait. C'est peut-être du logement qu'on appelle intermédiaire. Mais ce qu'il faut, c'est du logement régulé, neuf, à prix abordable. Et puis, il faut aussi fluidifier les parcours. C'est-à-dire, il faut permettre aux gens qui, aujourd'hui, sont dans le parc social, d'en sortir. Donc, il faut permettre aux gens de pouvoir accéder à la propriété, des gens qui sont dans le parc social. Il faut aussi peut-être plus réguler le marché locatif privé pour éviter un certain nombre d'abus. Il y a des dispositifs qui existent et qui sont mis en place. On parle de dissociation du foncier et du bâti, comme ils peuvent être mis en place dans le sud-ouest, à Lille ou dans un certain nombre de métropoles françaises. Ces dispositifs-là permettent de faire baisser massivement le prix du logement et le prix de l'accession, à la fois pour permettre à des gens qui ne sont pas dans le parc social de ne pas passer par la case logement social et d'accéder à la propriété, mais aussi pour permettre aux gens qui aujourd'hui sont dans le parc social de sortir du parc social, de libérer de la place et d'accéder à la propriété.
Moins de construction, plus de demandes, le logement social sous haute tension. C'était un reportage d'Anaël Verzo.
France Inter. On n'arrête pas l'écho. Claire Chaudière.
Pour poursuivre la réflexion, Patrice Vergrit nous a rejoint dans ce studio. Bonjour.
Bonjour.
Vous présidez l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Vous êtes aussi le maire d'hiver gauche de Dunkerque et ancien éphémère ministre des transports et du logement. Avant de parler de politique de la ville, vous avez entendu ce reportage. À Dunkerque, il y a un énorme sujet logement parce qu'il va falloir accueillir, si je ne me trompe pas, près de 20 000 personnes, emplois directs et indirects confondus, d'ici 2030 autour de la future vallée de l'industrie de la batterie. Comment est-ce que vous allez vous y prendre ?
Ben on s'y attache. On a un plan effectivement qui vise à construire 12 000 logements dans les 10 années qui viennent, qui vise à répondre à la fois à l'accueil des nouveaux arrivants, mais aussi à la demande qui existe aujourd'hui, parce que comme c'est dit dans le reportage, elle augmente aussi à Dunkerque. Et pour l'instant, on est dans les clous, c'est-à-dire qu'on doit passer notre production de logements de 500 par an à 1500 en 2029. Nous devions en faire 750 en 2024. Nous sommes dans les clous. Comment on fait ? On mobilise du foncier. La communauté urbaine s'engage beaucoup pour valoriser des opérations d'aménagement, des friches notamment. On lutte contre les meublés touristiques, le développement des meublés touristiques. Vous savez que Dunkerque est aussi une station balnéaire. On a aussi du développement de ces meublés-là. On a aussi un dispositif comme l'ANRU qui permet de requalifier des logements, notamment des logements sociaux que les gens ne veulent plus forcément aujourd'hui parce qu'ils sont plus attractifs. Donc, on diminue la vacance. On a diminué, par exemple, les logements vacants de 20% sur 2 ans. Donc, c'est considérable. Donc, voilà les différentes pistes qui existent aujourd'hui qui nous permettent à Dunkerque de répondre à l'enjeu. Pour l'instant, on est dans les clous et on réussit cette croissance. Il y a quelques grues à Dunkerque en ce moment.
Le logement, entre guillemets, en dur sur le temps très long, ça suffira ? Je crois que vous devrez aussi faire du logement, entre guillemets, provisoire ?
Oui, alors on a prévu également du foncier et des sites liés pour à peu près 5000 logements provisoires pour les chantiers, notamment les chantiers de l'EPR. On y arrive, on a identifié des sites spécifiques qui nous permettraient en fait d'avoir sur quelques années du logement, puis ensuite une reconversion. En fait, ça, c'est un travail très minutieux, local. Souvent, on aborde le logement à l'échelle nationale. En fait, ce n'est pas la bonne échelle. Paris n'est pas Montluçon, Lyon n'est pas Lunéville. Et en fait, chaque problématique logement est très spécifique à chacune des villes. À Dunkerque, on a des friches qu'on peut revitaliser et trouver des moyens de le développer. Et chaque territoire est différent et il faut à chaque fois y apporter une réponse spécifique. Et je rajoute juste une chose, on oublie aussi une solution, c'est l'aménagement du territoire. Je prends qu'un exemple. Un jour, quand j'étais ministre du logement, on m'a demandé de trouver une solution pour le logement étudiant. Et j'ai répondu à ce moment-là, mais le logement étudiant, c'est simple. Pourquoi on continue à concentrer les étudiants dans les métropoles, là où on a déjà du mal à se loger? Demain, vous faites tous les niveaux licences des universités dans des villes moyennes, qui aujourd'hui ont des taux de vacances de logement très élevés. Je vous ai cité quelques villes tout à l'heure. Vous réglez aussi le problème du logement étudiant dans les métropoles. Donc, l'aménagement du territoire, une autre façon de regarder le pays, c'est aussi une réponse à la crise du logement.
Alors, on va parler de rénovation urbaine. On est à la fin du deuxième grand plan lancé par l'agence que vous présidez, qui a été créée il y a 20 ans par Jean-Louis Borloo, avec donc ces grands travaux de transformation ou démolition, reconstruction de bars, de tours, d'écoles et de médiathèques, parfois dans 450 quartiers populaires. La plupart des projets sont lancés, sauf que depuis le moment où ça a été lancé, l'inflation est passée par là, et surtout l'État cherche à faire aujourd'hui des économies absolument partout. Il a bien du mal à mettre sa part de financement. Est-ce que vous allez vraiment pouvoir aller au bout de ce deuxième programme?
Je le souhaite, d'autant plus que l'ANRU est aujourd'hui un succès reconnu par l'ensemble des maires. On le voit, j'ai rencontré l'ensemble des associations d'élus locaux depuis que je suis président de l'ANRU. C'est unanime. Aujourd'hui, les maires reconnaissent que ça a changé le paysage des villes, que ces quartiers qui souffraient pour certains de dysfonctionnements urbains, j'ai envie de dire, soit un enclavement et des démolitions-reconstructions qui ont permis de désenclaver les quartiers, soit des bâtiments qui étaient totalement obsolètes, des logements dont on ne voulait plus, en fait, en réalité. Et donc, on a pu engager des restructurations urbaines qui ont changé la physionomie des quartiers. J'étais à Lille encore cette semaine, à Créteil la semaine d'avant. À chaque fois, les maires sont unanimes, ça aide. Donc, ça marche, donc il faut continuer. Pourquoi, effectivement, c'est un enjeu financier en ce moment? Parce que l'État a pris des engagements de financement autour d'Action Logement, autour de l'USH. L'État a pris un engagement d'un milliard d'euros d'apport. Il se trouve qu'ils ont demandé qu'on accélère les restructurations urbaines de l'ANRU. On arrive aujourd'hui donc au top, c'est-à-dire on est au moment
c'est là où il faut décaisser.
Voilà, c'est là aujourd'hui où les projets engagent le plus de financement.
Est-ce que l'État décaisse?
Et donc, il faut l'an prochain 270 millions sur le budget de l'État.
L'année dernière, vous n'avez rien eu. Vous avez difficilement eu 50 millions il y a quelques semaines. Comment vous allez faire?
Eh bien, je rencontre le Premier ministre, Valérie Létard, François Rebsamen se mobilisent pour y arriver. Il faut 270 millions pour que l'État tienne son engagement. On ne va quand même pas arrêter quelque chose qui marche, qui est reconnu par les élus locaux. Aujourd'hui, il me semble que c'est à la portée, en tout cas, de l'État de pouvoir mettre 270 millions l'an prochain à l'ANRU. Je pense que c'est possible, donc il faut maintenant que l'État tienne son engagement.
Alors, il y a un comité interministériel à la politique de la ville vendredi prochain à Montpellier. Alors, il a déjà été reporté deux fois, mais il va se tenir. Ça veut dire une grande partie du gouvernement réunie autour de cette question des quartiers prioritaires. Qu'est-ce que vous en attendez?
Je pense que c'est d'abord, à mon avis, une attente sur le volet social de la politique de la ville. Comme je le disais à l'instant, l'ANRU a plutôt montré un succès dans la politique de la ville. La rénovation urbaine, la partie urbaine de la politique de la ville, on a trouvé le bon outil. On est au niveau de l'ambition qu'il faut en termes financiers. Donc je pense que ce que j'attends le plus aujourd'hui, c'est des enjeux sur le volet social. Éducation, emploi, enfance, sécurité, c'est-à-dire ce qu'on appelle le contrat de ville dans la politique de la ville, pas forcément la rénovation urbaine. La rénovation urbaine, ce qu'on attend, j'ai envie de dire, c'est plutôt un engagement d'un ANRU 3, c'est-à-dire qu'on engage un nouveau programme de rénovation urbaine. C'est pas forcément le CIV qui doit permettre d'annoncer ça. Je pense que le CIV doit plutôt privilégier. Ouais. Oui, le comité interministériel.
Un ANRU 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on n'a pas encore fini le deuxième programme, mais on se projette dans un troisième programme qui va durer 15 ans et qui démarrerait dans 5 à 10 ans? C'est ça que vous dites?
Non, c'est très divers.
C'est ça que vous demandez aujourd'hui?
Il y a des situations où c'est terminé. Moi, par exemple, sur Dunkerque, j'ai un quartier aujourd'hui où l'ANRU 2 aura permis d'aboutir. On est au bout. Mais il y a des plus grands quartiers, je pense au Framoisin que j'ai visité à Saint-Denis aujourd'hui, où c'est pas terminé. Et vous pouvez pas dire à une partie de la population des Framoisins, bah vous c'est bien, maintenant vous allez vivre dans un cadre de vie apprécié, mais alors la rue d'en face, non. On va arrêter. La rue d'en face, vous restez comme vous étiez avant. Ça, c'est pas possible. C'est une injustice qui est absolument impossible. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir à une ségrégation socio-spatiale dans notre pays.
Alors, cette ségrégation socio-spatiale, elle s'est d'ailleurs accrue ces dernières années, malgré ces programmes de rénovation urbaine. C'est ce que dit un récent rapport qui a été rendu, y compris par la directrice générale de l'ANRU et puis le maire de Villeurbanne. La ségrégation s'est accrue alors même qu'il y a tous ces travaux. C'est quand même, qu'est-ce qui s'est passé là?
Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est
un constat d'échec malgré tout.
C'est-à-dire, ça s'accroît depuis 30 ans, la ségrégation socio-spatiale. Mais j'ai envie de dire, il y a un objectif de mixité sociale en France. Très bien. Moi, à titre personnel, ça ne me gêne pas de voir des quartiers populaires. Ça ne me gêne pas. Moi, j'ai grandi dans un quartier populaire, les Glacis à Dunkerque. J'y vivais bien. Ce qu'il faut éviter, c'est que le quartier populaire bascule dans un quartier en difficulté. C'est-à-dire qu'il soit stigmatisé, que les gens refusent d'y aller, refusent d'y habiter, ou que les services publics ne soient pas à la hauteur, et que les gamins qui grandissent dans ces quartiers n'aient pas la même chance que les autres. C'est ça que permet de faire la politique de la ville et l'ANRU dans sa dimension urbaine. Et donc, pour moi, c'est ça qui est important. Que les catégories les plus aisées se regroupent entre elles aujourd'hui dans les villes, c'est une réalité depuis 30 ans. Ce que moi, je souhaite, en tant que maire, c'est que les quartiers populaires vivent bien. Même s'il y a des quartiers populaires dans ce pays, il faut qu'elles vivent bien. Il faut qu'elles aient le niveau de service public approprié. Il faut qu'elles puissent vivre en sécurité. Il faut que le cadre de vie ne soit pas un repoussoir pour les autres. Il faut que chacun ait envie aussi d'y venir dans les services publics qui sont proposés. Moi, c'est ma vision de la ville. C'est ma vision de la ville. Donc, on peut imaginer demain qu'il y ait des quartiers populaires dans une ville. On n'est pas obligé de faire la mixité partout, tout le temps, etc. Mais par contre, il est hors de question que les quartiers populaires, on les laisse dériver. Il faut un peu plus de moyens dans ces quartiers, un peu plus
de volonté politique, c'est ce que disent un certain nombre d'élus, de banlieues, de tous bords politiques d'ailleurs. Ils disent en fait aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de volonté politique incarnée par le gouvernement, c'est pas porté, on entend, c'est très peu porté. Gouvernement dont vous avez fait porter, vous avez fait partie, ces élus disent, bah, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Ça fait quand même déjà plusieurs années qu'il y a une absence de portage de cette politique de la ville. Vous faites le même constat, vous, aujourd'hui, maintenant que vous êtes de l'autre côté à l'Agence de la Rénovation urbaine.
Alors, en tant que ministre, je pense l'avoir porté. Je pense que Valérie Le Tard et François Rupsamen le portent. Par contre, ce qui est vrai, c'est que politiquement, on a sans doute baissé la garde. C'est-à-dire, je pense que les maires ont baissé la garde par rapport à la politique de la ville et n'ont peut-être pas assez défendu cette politique. Mmh. C'est ce que j'ai dit récemment aux associations d'élus locaux. On a cru, par exemple, que l'Agence nationale de rénovation urbaine était immortelle. Que finalement, comme ça marchait, bah, ça allait toujours continuer, qu'il n'y aurait jamais de problème de financement. Et donc, c'est vrai, les maires là, que je vois en ce moment, ils me disent « Ah bon ? L'ANRU, il peut y avoir un problème de financement ? Ah bon ? Je pourrais ne pas avoir mes subventions ? Ah bon ? L'ANRU, ça pourrait s'arrêter ? Il pourrait ne pas y avoir d'ANRU 3 ?» Et du coup, je trouve des maires inquiets qui, maintenant, ont envie de parler. Et je les entends, d'ailleurs. Aujourd'hui, ils s'expriment parce qu'ils ont compris l'enjeu de la suite. Donc, peut-être qu'effectivement, comme on avait un outil qui fonctionnait, on a baissé la garde. Peut-être aussi que sur la politique de la ville, sur le volet social, on n'a pas mis l'ambition à la hauteur de l'ambition urbaine. C'est vrai que l'ANRU, il y a une belle ambition. Il y a des milliards d'euros, vous l'avez dit. Mais peut-être que sur le volet social, on n'a pas été à la hauteur.
Je voudrais quand même qu'on dise, avant de se quitter, un tout petit mot sur l'info de la nuit. Donc, Donald Trump qui annonce que les droits de douane vont passer à 50% sur l'acier dans quelques jours à peine. ArcelorMittal à Dunkerque est en train de licencier 150 personnes. Cette bataille de l'acier compétitive, vous pensez vraiment qu'elle est gagnable ?
Oui, elle est gagnable. C'est une question de volonté politique. On arrive à un moment où la concurrence, vous avez eu le débat tout à l'heure, les normes sociales et environnementales européennes font que la concurrence avec les États-Unis et la Chine, elle ne peut plus s'opérer, j'ai envie de dire, dans une logique juste. Donc, il se trouve que l'acier est un bien souverain. C'est-à-dire que j'entends parler d'industrie d'armement en ce moment, on ne va pas demander l'autorisation aux Chinois de pouvoir avoir de l'acier pour construire nos chars et nos avions. Bien. Donc, il me semble que l'acier est un bien souverain. À partir du moment où vous avez un bien souverain, vous devez garantir des capacités de production en Europe. Donc, aujourd'hui, il va falloir...
L'Union européenne doit aller plus vite, c'est ce que vous dites. Le gouvernement doit pousser encore plus pour ce plan acier.
Non, aujourd'hui, il se mobilise. C'est à l'échelle de l'Union européenne aujourd'hui qu'il faut des mécanismes de protection des capacités de production d'acier en Europe. Je pense qu'Emmanuel Macron et le chancelier allemand maintenant se mobilisent là-dessus. Mais il faut avancer et il faut un plan acier européen fort.
Merci, Patrice Vergritte. Vous étiez l'invité d'On n'arrête pas l'écho. Merci à vous. Très bon samedi.
Merci à vous.
On n'arrête pas l'écho. Sur France Inter.
Et c'est déjà l'heure de retrouver Christian Chavagneux. On va feuilleter avec vous quelques trouvailles, trois livres qui parlent d'économie à leur façon. Et on démarre avec le nucléaire.
Alors le nucléaire, c'est compliqué, vous n'êtes pas spécialiste, moi non plus, j'y comprends rien, donc j'ai le bouquin qu'il vous faut. C'est « Le nucléaire va ruiner la France » par Laure Noualat, c'est aux éditions du Seuil. Emmanuel Macron, en 2022, a lancé un grand projet, 6 EPR, 6 nouveaux réacteurs nucléaires. La question du bouquin, c'est mais qu'est-ce qui va payer ? Déjà, le coût, bah, à peu près 80 milliards pour les 6 EPR. À minima. EDF ne peut pas payer parce qu'ils sont déjà surendettés. Il faut déjà qu'ils payent pour tous les réacteurs qui existent aujourd'hui. Il faut qu'ils payent pour le futur démantèlement. Il faut qu'ils payent pour essayer de les garder le plus longtemps possible avant le démantèlement. Bref, trop d'argent à dépenser. Est-ce que ça peut être l'État ? Ben non, on a une dette publique absolument énorme. On ne va pas payer. Qu'est-ce qui va payer ? Bah, nous, les consommateurs, on va être obligé de payer un nucléaire super cher, ça va se voir sur la facture d'électricité. Alors vous me direz, pourquoi il n'y a pas des grands investisseurs privés, puisqu'on va payer cher et que nous, on est le public captif ? Oui, sauf que le nucléaire, ça prend beaucoup de temps, il y a des coûts financiers énormes, il y a des manques de main-d'œuvre. Bref, EPR, c'est encore plus ruineux.
Et votre deuxième recommandation, c'est un livre qui s'intéresse à une enseigne sportive bien connue des Français.
Oui, Décathlon, les tactiques de la vertu par Carré Lyon et plusieurs autres chercheurs, c'est à Sciences Po Les Presses. Alors, une petite citation de l'ancienne patronne de Décathlon. Ce qui fait la force de Décathlon, c'est son aspect humaniste. La rentabilité, c'est pas l'objectif prioritaire. Quand vous dites ça, que vous êtes un patronne de multinationale, bah évidemment, les chercheurs vont venir tester si c'est vrai ou pas. Les trois premiers chapitres disent oui, c'est pas mal, l'héritage du catholicisme social, des cadres RSE hyper valorisés. Et puis les quatre chapitres suivants disent oui, attention, faut pas trop aller trop loin non plus. Les syndicalistes, ils sont mal vus. La compétition, c'est bien dans le sport, mais aussi sur le marché du travail interne. Bref, on n'est pas du tout dans le registre de la dénonciation, juste des chercheurs qui ont dit être une entreprise responsable, c'est pas si facile.
Votre troisième livre nous emmène enfin de l'autre côté de l'Atlantique.
Ah ouais, pour moi, le plus grand homme politique du XXe siècle, c'est Franklin Roosevelt. Et là, il y a un livre qui s'appelle « L'autre Amérique », Judith Pérignon, chez Grasset. C'est un récit économique, politique, humain sur le président Roosevelt. Il n'y a pas de scoop, juste une belle façon de découvrir l'homme et l'homme d'État qu'était Roosevelt, l'anti-Trump.
Christian Chavagneux, L'écho à la page.